Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors hier, vous avez évoqué une critique littéraire américaine, Marjorie Perloff, qui vient de faire paraître en anglais un livre consacré à la littérature autrichienne de l'entre-deux-guerres.
Ma conscience de soldat et d'ancien combattant autrichien, ne pouvant accepter que je figure sur les listes de l'armée prussienne, je me vois dans l'obligation de renoncer à mon grade. Si vous avez été soldat, monsieur le gouverneur, et si vous avez fait la guerre, ce dont je me permets de douter, vous comprendrez l'aversion que m'inspire l'idée de faire éventuellement partie, fût-ce par erreur ou par inadvertance, d'une armée ayant envahi ma patrie. Je compte servir la France que vous songez à attaquer. Et dans une lettre bien dans sa manière ironique et intraitable, Joseph Roth, qui se définissait comme monarchiste autrichien en 1933, soit 17 ans après la disparition du dernier empereur, écrit au nouveau gouverneur d'Autriche, Seyss Inquart. Ce dernier, fondateur du Parti national-socialiste autrichien, venait d'être imposé par Hitler à la tête de l'Autriche en vue d'organiser l'annexion pure et simple du pays au Reich pan-germanique. Joseph Roth, écrivain juif, fidèle à l'Empire disparu, avait dû fuir son pays pour se réfugier à Paris, où, déprimé, il sombra dans l'alcoolisme. Alors une auditrice attentive m'a fait remarquer que j'avais confondu hier l'année de naissance de Marjorie Perloff avec celle du départ de sa famille le lendemain de l'Anschluss. Elle est bien née en 1931 et elle avait donc 7 ans lors de l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich le 12 mars 1938. Dans son dernier livre, Edge of Irony, cette spécialiste de la poésie contemporaine américaine s'intéresse donc à 5 écrivains autrichiens nés sous la double monarchie qui ont accompli leur œuvre entre les deux guerres. Joseph Roth, Karl Kraus, Elias Canetti, Paul Celan, Robert Musil. Alors ce dernier a connu chez nous une espèce de gloire posthume. Dans les années 1970-80, tout le monde lisait L'homme sans qualité dont il est l'auteur. J'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Le lecteur d'aujourd'hui est sans doute rebuté par ces classiques de notre modernité, touffus, interminables, mêlant les réflexions à une action réduite au minimum qui s'apparente, disons, à l'Ulysse de Joyce ou Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry qu'on ne lit plus non plus. Et c'est bien dommage. Parce que L'homme sans qualité n'est pas seulement une analyse spectrale de l'Autriche à la veille de son effondrement et de sa dissolution, c'est une méditation lucide et amusante sur les métamorphoses du sujet dans les époques de transition.
Et alors en quoi L'homme sans qualité peut-il être considéré comme une œuvre viennoise? Qu'y a-t-il de spécifiquement autrichien dans ce roman?
Prenez la deuxième partie. Elle est largement consacrée à l'action parallèle. C'est une parodie de ces commissions fantoches qui pullulaient dans le royaume vermoulu des derniers des Habsbourg. Il s'agit théoriquement de trouver des idées originales pour célébrer en 1918 le 70e anniversaire du règne du vieil empereur et de damner ainsi le pion aux voisins allemands qui s'apprêtent de leur côté à fêter en grande pompe le 30e anniversaire du règne de leur propre empereur Guillaume II. Alors le lecteur sait bien que l'empereur d'Autriche et roi de Hongrie devait mourir en novembre 1916, que donc il n'y aurait pas de célébration de son jubilé. François-Joseph, né en 1830, n'était pas immortel. Aussi, toute cette agitation n'en apparaît-elle que plus dérisoire. Mais les dernières années de ce règne interminable donnaient l'impression d'un immense décalage entre le bouillonnement des nationalités, la révolution industrielle, l'extrême créativité culturelle et un empire figé dans ses rituels, identifié à son vieux souverain solitaire. Et c'est l'année 1913 que choisit Musil pour cadre de L'homme sans qualité. Lui aussi d'ailleurs dut fuir son pays après l'Anschluss. Il mourut dans la misère en Suisse. Alors Joseph Roth, mort à Paris, lui en mai 1939, aura échappé aux nazis. Sa postérité littéraire est mieux assurée depuis le succès remporté par la traduction en français de ses deux romans les plus fameux par le seuil, La marche de Radetzky et La crypte des Capucins en 1982 et 83. D'autres écrits de Roth ont été traduits. D'ailleurs, un roman inédit en français, Gauche et droite, vient juste d'être publié par les Belles Lettres. Mais je voudrais citer un extrait très révélateur de la crypte des Capucins, que voici. Je me doutais d'ores et déjà que mes camarades étaient capables de subir avec succès les épreuves d'un examen, mais non celles de la guerre. Leur jeunesse avait été trop gâtée dans cette Vienne sans cesse nourrie par les états de la couronne. Ils n'étaient que les enfants inoffensifs, risiblement inoffensifs de la capitale de la monarchie, capitale dorlotée, excessivement fêtée et qui semblait une araignée brillante, ensorcelante, établie au milieu de son énorme toile noire et jaune, recevant sans relâche des états environnants, force, sève, éclat. Comment mieux dire que l'Autriche, amputée par ses nationalités, de ses nationalités hongrois, tchèques, polonais, croates, slovènes, slovaques, etc., a été condamnée à vivre dans la nostalgie de sa double monarchie impériale et royale, kaiserlich und königlich, KK, comme écrivait Musil. La marche de Radetzky est un livre extraordinaire, crépusculaire et ironique, à la fois un chant d'adieu mélancolique à l'Autriche d'avant-guerre. Juste une citation, une dernière si vous le voulez bien, pour la route. Le monde où il valait encore la peine de vivre était condamné à sombrer. Le monde qui lui succéderait ne mériterait plus d'être habité par des gens comme il faut.